Notre invitée aujourd'hui est Martine Gauzelan. Elle est journaliste et reporter dans le magazine Marianne. Elle écrit un premier livre qui s'appelle « Le rendez-vous des Gobelins » aux éditions Écriture. Bonjour Martine Gauzelan.
Bonjour. D'abord, ce n'est pas mon premier livre, cher Jean-Pierre.
Premier roman, autant pour moi.
C'est un premier roman. J'ai déjà écrit 12 biographies et essais.
Vous allez voir pourquoi j'ai fait la petite erreur. Vous avez écrit 12 livres sur l'actualité en général aussi. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir romancière pour la première fois ?
Ben, écoutez, on est poussé, ce sont les livres qui nous dictent un petit peu, hein. C'est pas l'auteur qui choisit son sujet, c'est le sujet qui choisit son auteur. Donc,
Mais d'habitude, vous faites des livres sur l'actualité très documentés, très travaillés. Là, le roman, c'est un peu dans l'imagination.
Ben, d'abord, un roman, c'est aussi documenté, c'est aussi travaillé, c'est aussi de la matière de l'instant, de la matière d'actualité qui se confond avec les souvenirs. Et si vous voulez, mes livres, les 12 livres que j'ai écrits auparavant sont aussi nourris de beaucoup de choses, donc et pas seulement des faits. Ce qui m'a poussé à écrire, en fait. C'est ce que ressent tout écrivain, c'est-à-dire qu'il y a des choses en vous qui ont besoin d'être dites, et j'ai eu envie d'explorer cette espèce de confrontation permanente que chacun de nous, chaque individu a entre le présent, son présent et le passé qui remonte à la surface. Voilà. Et dans le livre, il y a une allégorie. Il y a cette allégorie de la rivière enterrée à Paris, puisque ça se passe à Paris, dans le quartier des Gobelins.
On va y arriver. Moi, je voudrais qu'on essaye, comme on dit dans le cinéma, de faire le pitch. Je vais raconter le début, vous allez m'aider à raconter la suite. Le début, c'est l'histoire d'une journaliste qui va boire un café justement au Gobelin. Et la personne qui tient le café dit à cette journaliste, il y a quelqu'un qui vous attend. Une femme plutôt âgée, pas très bien habillée. Et vous acceptez finalement de discuter avec elle. Qu'est-ce qui se passe après ?
Bah, écoutez, d'abord, c'est la narratrice, c'est une journaliste, elle vit dans le présent, elle vit un présent absolument trépidant, le présent de l'instant, le présent de l'actualité, et il y a une femme...
La journaliste, ça peut être vous ?
Je ne sais pas. La narratrice, tout écrivain met dans ses personnages énormément de lui-même. Donc, la question que vous pouvez poser à n'importe quel écrivain, c'est est-ce que c'est vous ?
Oui.
Il vous dira, c'est vous, c'est moi et c'est un autre.
D'accord.
Comme je l'ai un autre. C'est ça, la littérature.
Okay.
Donc, si vous voulez, il y a ce personnage qui surgit du fond du temps et qui lui dit faire partie de sa famille, c'est-à-dire être le fantôme d'une aïeule dont le destin est resté assez mystérieux dans le récit familial. Et en fait, elle remonte d'une rivière qui existe vraiment, qui est l'autre rivière de Paris. Il n'y a pas que la Seine à Paris.
Ouais.
Il y a la Bièvre, et la Bièvre est une rivière enterrée qui a été comblée dans les années 20.
Oui.
Et cette Bièvre, sur les bords de cette Bièvre, s'activait tout un petit peuple d'artisans, et parmi lesquels des tanneurs, dont certains étaient juifs. Et cette femme... qui a été belle, qui a été resplendissante. Elle vient de cette famille de juifs russes lituaniens, et elle remonte du temps, elle remonte de la rivière enterrée, et elle prend sa descendante par la manche, et elle lui dit « Souviens-toi de moi, parce que les morts ne peuvent exister, ne peuvent avoir de repos éternel que dans le souvenir, que parce qu'on se souvient d'eux. »
Alors, on va pas dévoiler la fin de l'histoire, parce qu'elle est totalement surprenante et très haletante. Il y a un vrai suspense pour savoir la fin de ce livre. On revient à cette histoire. En fait, c'est l'histoire aussi d'une famille qui habite, donc vous l'avez dit, la Lituanie, qui s'en va à cause des pogroms, qui doit arriver en Allemagne finalement. Elle arrive à Paris et on a l'impression que cette famille s'épanouit vraiment à Paris. C'est une impression ou c'est vraiment ce que vous avez voulu expliquer?
Que cette famille s'installe à Paris,
oui,
ou elle s'évanouit? Quel est votre terme, pardon?
S'évanouit. Elle vit à Paris, elle a une vie, disons, avec du travail, avec un endroit, avec un peu la vie juive autour.
Non, c'est pas ça. C'est pas une histoire d'épanouissement. C'est l'histoire de tous les Juifs. Ça se passe à la fin du 19e siècle. La Lituanie n'est pas la Lituanie, c'est l'Empire russe. Donc c'est Kovno, c'est le monde des Litvaks, le monde d'où est issu notamment le plus grand philosophe juif contemporain, c'est-à-dire Emmanuel Lévinas. Mmh. C'était des traditionnalistes, c'était aussi des rationalistes. Dans cette famille se propage la légende d'une filiation généalogique avec le Gaon de Vilna.
Ouais.
Et quand cette famille quitte la Russie, quitte Kovno, elle ne choisit pas Paris. Paris lui tombe par hasard parce qu'elle devait partir pour l'Amérique.
Ah.
Et donc, je vais la nommer, c'est la famille Avijansky.
Ouais.
Et Rose, l'héroïne, donc l'aïeule de la narratrice, Rose Avijansky est la plus fragile, la plus sensible des quatre filles Avijansky. Il y a aussi un jeune garçon, ouais, Lev, qui a franchi la frontière quand il avait 3 mois, englouti sous la cape de sa mère parce que le tsar faisait enlever les enfants juifs au berceau pour les faire élever dans des familles chrétiennes et en faire des soldats pour l'armée impériale. Donc quand il arrive à Paris, il s'épanouit pas. Il travaille comme des fous. Comme tous les juifs ont toujours travaillé quand ils étaient obligés de changer de pays. Ils ont travaillé pour regarder la réalité en face. Cette vie à Paris, elle n'est pas exempte de fracture, il n'y a pas d'idéal. Il y a parmi les quatre filles, on a une qui s'en sort beaucoup mieux,
oui,
qui s'appelle Lydie au début, parce que Lydie, elle est plus... chacun survit, chacun s'intègre avec son tempérament.
Ouais.
Rose est plus tendre, elle est plus émotive, elle est plus fragile.
Alors, pour avancer un peu dans l'histoire, Rose va se marier avec Mardoché, qui lui est originaire d'Algérie, et vous choisissez pour parler d'Algérie de situer votre histoire au Mzab, c'est-à-dire l'Atlas, et où vous...
Non, c'est pas au Mzab.
Gardaïa, c'est pas le Mzab.
Non, c'est pas du tout Gardaïa. Non,
ah bon.
c'est Soukaras, oui.
À côté, alors.
Voilà, je suis très, très... Je suis alors, toujours journaliste. Et donc
alors,
je
non, pourquoi je dis Gardaïa? Parce que Gardaïa, c'est la ville de naissance de ma maman.
D'accord, ok. Ben
voilà,
on parle de
donc
votre
moi
maman,
j'ai retenu
on parle
ça.
De l'héroïne du livre.
D'accord.
Okay.
Alors, donc, à côté de Gardaïa, donc, vous avez votre héroïne qui est mariée avec un monsieur qui est Mardoché, et là, elle vit une autre vie.
Non, les choses ne se passent pas tout à fait comme vous les décrivez.
Alors, j'ai mal lu.
Au carreau du temple, elle rencontre un marchand, un fripier.
Ouais.
Donc son père est tanneur, Yankel Avijansky, qui l'a séduit, dont elle tombe amoureuse. Elle a besoin d'un destin. Et l'amour, c'est souvent... l'amour, maintenant, les femmes semblent le choisir, elles semblent choisir leur compagnon.
Mmh.
Et Rose, finalement, se dit que cet homme va la sauver une existence très approximative. Et elle va le suivre donc dans le pays... d'où il est issu, enfin l'Algérie, qui était l'Algérie française, et ça se passe sur les hauts plateaux algériens. C'est une petite ville que je connais très bien, qui s'appelle Soukaras, qui n'a rien à voir avec le sud, et qui est une ville encore très très enclavée vers la frontière tunisienne. Et là va se produire le choc entre finalement l'héritière d'une tradition russe, lituanienne, et cette famille qui n'est pas symptomatique des grandes familles juives d'Alger. C'est une famille juive algérienne de l'intérieur.
Ouais.
De l'intérieur de l'Algérie, extrêmement arabisée. Et là, bien sûr, l'amour est malheureux. L'amour est malheureux parce que, bon, pour des tas de raisons qui sont celles d'un couple, de tous les couples qui ne marchent pas, mais l'amour est malheureux aussi parce qu'il y a deux univers qui ne peuvent absolument pas coexister. majesté. Et l'homme, le mari, est extrêmement jaloux. Ouais. Pour lui, une femme, ça se possède, ça se met sous clé. Finalement, ils rentreront à Paris. Et évidemment, si vous voulez, ce que j'ai voulu, franchement, on raconte l'histoire, mais ce qui est intéressant, je pense que ce qui peut intéresser vos auditeurs, c'est que c'est une histoire, encore une fois, où se mélange, où interfère le passé et le présent. Pourquoi la Bièvre ? La Bièvre, c'est une allégorie. Nous avons tous des fleuves enfouis en nous, au fond desquels nous avons peur d'être précipités avec nos fantômes. Et si vous voulez, ce fantôme qui remonte du passé et dont les lecteurs découvriront l'histoire, elle parle à sa petite fille qui est d'un autre siècle, du siècle des femmes qui ont conquis leur liberté, qui peuvent aimer, travailler, elles ont l'indépendance financière. Ouais. La narratrice, elle vit une vie formidable parce qu'elle l'a choisie. Et en même temps, elle est sujette à des accès de mélancolie à cause de l'hérédité. Parce que de quoi dépendons-nous ? De quoi dépendons-nous profondément ? Ouais. Est-ce que tous ces disparus que nous avons derrière nous, qu'est-ce qu'ils nous ont légué ? Ce que nous n'avons pas connu. Je ne parle pas de nos parents. Hein ? Je parle souvent des grands-parents et des arrière-grands-parents. Ouais. Qu'est-ce que nous portons deux en nous. Et le livre, c'est là-dessus. C'est-à-dire, c'est entre deux époques, deux femmes, qui s'interfèrent, bien sûr, qui se rencontrent, et dont la rencontre est explosive à travers, bien sûr, un univers fantastique. Et en même temps, je raconte la vie d'un journal, parce que je le connais bien et c'est ma vie.
C'est justement ça. Alors, dans ce journal, il y a un personnage atypique, c'est le rédacteur en chef. Est-ce que vous avez eu un modèle pour le créer, ce rédacteur en chef?
On s'inspire toujours, c'est le directeur de la rédaction, le fondateur du journal, on s'inspire toujours des personnages qu'on a croisés et qui vous ont fortement impressionné. Donc, évidemment, comme pour tous mes personnages...
C'est un mélange de Jean Daniel et de Jean-François Kahn, j'ai trouvé.
Écoutez, c'est vous qui le dites. Je n'ai jamais travaillé avec Jean Daniel. D'accord. Mais c'est vous qui le dites. Donc, c'est vous qui prononcez les noms. Pour moi, c'est un journaliste, c'est un journaliste qui incarne le meilleur du métier. Un métier souvent décrié, un métier souvent galvaudé. Mais pour moi, le métier de journaliste est vraiment l'un des plus beaux métiers du monde, si on le prend au pied de la lettre, c'est-à-dire on n'en fait pas un exercice mondain, on n'en fait pas un exercice politique, on va se colter à la réalité. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie, c'est ce que fait la narratrice, elle part en Algérie. Son patron l'envoie en Algérie, et c'est là qu'elle va croiser le fantôme de cet autre aïeul, le juif algérien, le juif des hauts plateaux, et à qui elle va demander des comptes. Donc, si vous voulez, mais c'est une description aussi de l'Algérie d'aujourd'hui, que je fais. Ouais. Et c'est une petite ville algérienne. Donc, si vous voulez, bien sûr que je me suis inspirée de la réalité. Il y a un personnage auquel je tiens beaucoup, qui est le camarade algérien qui l'attend en Algérie, qui va lui servir de guide. Et alors là, j'ai donné son vrai prénom, Malik, parce que je l'ai connu. C'est un homme qui s'est colté à l'islamisme, qui a lutté contre l'islamisme en face avec ses propres armes, qui était une caméra et un stylo. Et il est mort de cette coltée à l'islamisme. Mais il s'appelait Malik Aïtaoudia. Donc il y a deux noms que je prononce aujourd'hui. Non pas celui de journaliste dont je me suis inspirée, mais celui de l'héroïne, Rose Avijanski, et celui du journaliste algérien qui va la guider à travers ces hauts plateaux algériens qui contiennent beaucoup de secrets. Voilà.
Le rendez-vous des Gobelins, Martine Gauzlan, aux éditions de l'écriture. Une question un peu annexe. J'ai beaucoup aimé la couverture. La femme qui est sur cette couverture est un mannequin ou c'est une photo?
Non, c'est une photo de famille. C'est une vraie photo de famille.
Elle est très jolie, en tout cas.
Elle est très belle. Elle est très belle. Et je suis heureuse. J'espère que le maximum de lecteurs admireront sa beauté. Et vous avez vu que sur la couverture, il y a un rail qui signifie que pour moi, elle est toujours vivante. Et je vous répète, les morts ne peuvent reposer en paix que si on se souvient d'eux. Zahor, voilà.
Zahor, voilà le mot en hébreu. Merci Martine Gauzlan d'avoir répondu à nos questions.
Merci, et
de m'avoir dit que j'ai mal lu votre livre. Mais à part ça, tout va bien.
À bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.